comme les heureux retraités, dès votre entrée dans la vie active, pensez à assurer vos vieux jours chez Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Très contagieux, obsédant et pourtant souvent bénin. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous parlons de ces petites bêtes qui peuvent nous gâcher la vie. Les poux, la gale, punaises de lit, autres morpions, insectes ou acariens qui colonisent la peau, les poils ou se logent dans la literie. Pédiculose, parasitose, elles déclenchent démangeaisons ou irritations et au-delà des réactions physiques qu'ils entraînent, ces parasites se révèlent souvent stigmatisants dans la mesure où ils restent liés à des préjugés qui les associent à un manque d'hygiène ou à une certaine promiscuité. Ces minuscules intrus peuvent se montrer à la fois obsédants et particulièrement résistants. Difficile parfois de s'en débarrasser lorsque l'on n'a pas les bons produits alors que ces infestations sont souvent récidivantes, particulièrement en collectivité. Pougal, punaise, morpion, illustration très concrète que certaines affections qui ne nous mettent pas en danger peuvent devenir à proprement parler invivables. Parasites corporels ou capillaires, description, conséquences pour la santé, méthode pour s'en débarrasser. Avec nous en studio, docteur Areski Isri, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny en région parisienne. Nous retrouverons tout à l'heure en ligne de Côte d'Ivoire le professeur Hervé Ménant, professeur de parasitologie et mycologie, chef du département de parasitologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Des parasites qui prolifèrent en collectivité, également dans des structures d'accueil d'urgence. C'est ce que l'on verra tout à l'heure avec le docteur Pierre-Marie Gallo, médecin bénévole qui intervient en clinique mobile en France auprès des migrants pour Médecins Sans Frontières. Et en fin d'émission, vous retrouvez le docteur Catherine Solano, sexologue, pour répondre à vos questions, des messages que vous pouvez lui adresser sur la page Facebook de Priorité Santé, également à notre numéro 33 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Areski Isri, on va revenir dans le détail sur les caractéristiques de ces différents parasites. D'abord peut-être un trait commun. Est-ce que l'on peut dire que généralement, être porteur d'un parasite, ce n'est pas un danger, un danger objectif pour la santé?
Alors les ectoparasites, c'est-à-dire les petites bêtes qu'on trouve sur la peau ou sur dans les cheveux, chez nous en tout cas en France, sont rarement dangereux. Les poux ne transmettent pas de maladie. La gale, oui, c'est pas agréable, c'est une maladie contagieuse, désagréable, mais pour l'instant, c'est pas mortel, on va dire ça. Les morpions, c'est devenu très rare, c'est des poux du pubis qui peuvent aller sur tout le corps. Ceux qui sont un peu dangereux, c'est les puces, mais pas en France en tout cas, il n'y a pas de transmission de maladie. Les tiques, en France, transmettent la maladie de Lyme et d'autres maladies, ça c'est moins agréable. Voilà, je crois que globalement, c'est pas trop méchant.
Alors, votre spécialité, docteur Isri, c'est donc parasitologie, mycologie. Pour quel type d'infestation des patients se rendent-ils à l'hôpital en consultation, justement, pour cette spécialité particulière?
Justement, les patients qui viennent nous voir viennent d'eux-mêmes ou sont adressés par des médecins pour des problèmes de parasites sur la peau, dans les cheveux, donc les poux, la gale, les problèmes de punaises de lit. Voilà, dès qu'il y a une petite bête quelque part, on nous les adresse facilement.
Mais ça peut étonner parce qu'on peut se dire finalement, si c'est pas si grave que ça pour la santé, comment ça se fait que pour autant on va à l'hôpital pour traiter ce genre de problème?
Mais écoutez, c'est peut-être pas toujours très grave, mais ça peut l'être. Et puis, c'est quand même pas agréable, vous l'avez dit, ça peut être stigmatisant, ça peut être désagréable, d'avoir des poux, d'avoir la gale, d'avoir toutes ces petites bêtes sur la peau, ça coûte très cher, ça vous isole un petit peu du reste de la société, donc c'est pas si bénin que ça.
C'est pas bénin, et justement, les personnes qui viennent en consultation, elles parlent, elles évoquent ces problèmes finalement sociaux et psychologiques que peuvent entraîner ces parasites?
Absolument. D'ailleurs, quelque chose d'assez incroyable, c'est que quand ils se retrouvent dans la salle d'attente, alors qu'ils se connaissaient pas, ils tissent des liens et commencent tous à discuter. Oui, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, et maintenant ça va mieux.
Ils se racontent des histoires de poux, c'est sympathique dans les salles d'attente. Alors, des points communs entre ces différentes, on parle d'infestation, docteur Areskisri, peut-être leur caractère contagieux, plus ou moins contagieux, mais en tout cas il y a bien cette contagion.
Oui, la plupart des ectoparasites sont contagieux, parfois très contagieux. Par exemple, la gale, vous savez, le contact direct peau contre peau par l'intermédiaire de vêtements, de serviettes de toilette, c'est contagieux. Et puis, c'est vraiment pas agréable. Hein. Les gens, ils se grattent jusqu'au sang, ils dorment pas la nuit, ils transmettent à tout le monde. Donc, voilà, c'est quelque chose de contagieux. Les poux également sont très contagieux. Ils passent facilement d'une tête à l'autre par un simple contact cheveux contre cheveux. Les morpions, il faut un peu plus de contact. Hein. C'est souvent sexuellement transmissible, mais ça peut passer aussi de la mère à l'enfant, des enfants aux parents. Ouais, c'est quelque chose de contagieux.
Alors, comment expliquer, hein, bien sûr, dès qu'on parle de ces bêtes, on parle du phénomène de grattage, ces fameuses démangeaisons. C'est quoi la réaction physiologique qui conduit comme ça à cette irrépressible démangeaison, docteur Isry?
Alors déjà, quand vous avez une bestiole qui marche sur la peau ou dans les cheveux, ça vous dérange.
Mais rien, quand on en parle, on commence à se gratter.
Voilà. Ensuite, vous avez ces insectes, ces acariens, quand ils sont sur nous, c'est pour se nourrir. Les poux se nourrissent de sang, donc ils nous piquent. Et comme tous les insectes, quand ils piquent, ils injectent leur salive qui contient des protéines. Et ce sont ces protéines qui déclenchent un phénomène d'allergie. C'est une allergie. Et on se gratte parfois jusqu'au sang. Pareil pour les acariens, ils ne se nourrissent pas de sang, mais ils se nourrissent de la peau. Mais ils crachent leur salive au niveau du tunnel qu'ils creusent dans la peau. Et puis leur déjection également. La salive et les déjections contiennent des protéines et entraînent un phénomène d'allergie. Et là, on se gratte aussi jusqu'au sang.
Alors, allergie, mais ça ne peut pas aller plus loin, avoir des phénomènes où on irait vers des... on a parlé des surinfections, c'est déjà un problème en soi, mais on irait vers des allergies plus graves, type allergie alimentaire ou des chocs ou ce genre de choses?
Alors, les allergies dues aux ectoparasites sont rarement très graves, hein, il faut le dire, c'est pas méchant, mais il y en a qui les supportent pas, et quelques-uns font des réactions graves, ça peut aller jusqu'à l'œdème de Quink, comme on dit, mais c'est plus avec des piqûres de punaises, par exemple, de punaises de lit.
Alors, tout à l'heure, on parlait brièvement des poux de tête, il existe aussi des poux de corps. Est-ce que les morpions, ce sont des poux de corps ou c'est différent?
Alors, il y a trois espèces de poux. Les poux de tête, qu'on ne trouve habituellement que sur la tête, c'est bénin, c'est pas méchant. Les morpions dont on a parlé, c'est sur le pubis, mais ils peuvent aller sur tout le corps. Habituellement, c'est bénin. Et puis, il y a ce qu'on appelle les poux de corps, qui portent très mal leur nom, parce qu'ils sont pas sur le corps, mais ils sont sur les vêtements. Ils se nourrissent sur le corps, mais ils vivent, ils font tout leur cycle de développement sur les vêtements. Ceux-là, ils sont dangereux, parce que ce sont ceux-là qui transmettent des maladies graves, comme le typhus exanthématique ou la fièvre des tranchées, la fièvre récurrente à poux et autres.
Trois sortes de poux, trois traitements différents pour s'en débarrasser?
Oui. Alors là, oui, trois traitements différents. Les poux de corps ne sont que sur les vêtements. Si on enlève les vêtements et qu'on les passe à la machine à 60, le problème est réglé.
La chaleur les éradique. C'est une bonne solution.
Lavage à 60 ou bien sèche-linge?
Sèche-linge.
Le sèche-linge avec le programme prêt à ranger. Alors là, c'est radical.
Et le fer à repasser, ça marche aussi ou pas?
Ça marche aussi, oui.
Et pour, les autres poux, on a l'habitude, quand on se promène dans les pharmacies, il y a des grandes publicités en vitrine avec justement des poux en gros plan, des enfants qui se grattent la tête, les parents désolés. Est-ce que tous ces produits, finalement, c'est beaucoup de marketing ou c'est aussi des solutions concrètes?
Un peu des deux, si j'ose dire. Beaucoup de marketing et quelques solutions concrètes. Je vais commencer par les morpions, c'est facile. À un moment donné, il y avait dans les journaux une espèce en voie d'éradication, le morpion, donc tout le monde pleurait, ça va disparaître.
Parce que j'en suis pas certaine.
Parce que les gens, ils se rasaient le pubis dès qu'ils avaient des morpions. Bon, malheureusement, je corrige, ça n'a pas disparu, ça revient encore, parce que les morpions ne sont pas que sur le corps. Là, on peut faire un traitement assez simple aujourd'hui, c'est le stromectol, c'est des comprimés. Quand il y a une invasion, quand il y en a sur tout le corps, comme ils se nourrissent de sang, le médicament passe dans le sang et tue les morpions. Pour les poux de tête, c'est autre chose. Les poux de tête, on a utilisé beaucoup de produits. Par le passé, c'était les insecticides, hein, les pyréthrinoïdes en général. Et les poux sont devenus résistants. Ça fait maintenant 20 ans au moins que les poux sont résistants, 30 ans même. Et ensuite, il y a eu les huiles qui ont été inventées, beaucoup d'huiles, des produits huileux qu'on applique sur la tête et qui sont censés étouffer les poux. Au laboratoire, ces huiles marchent, donnent de bons résultats, très souvent. 100% de mortalité, pas pour tous. Beaucoup n'ont pas marché au laboratoire, mais sont quand même commercialisés. Mais quand on passe sur le terrain, quand on traite des gens avec ces huiles, le succès n'est pas vraiment au rendez-vous. Beaucoup d'échecs. Ça, on peut répéter peut-être les huiles, c'est pas toxique, on peut répéter les applications tous les 2-3 jours et ça peut donner de bons résultats. Mais n'oublions pas quelque chose de très simple, le peigne. Le peigne à poux, quand on a les cheveux courts et faciles à coiffer, on peut passer le peigne tous les jours, ça marche bien, un peigne fin. Si les cheveux sont plus difficiles à coiffer, ça peut être une torture, mais on peut aussi mettre un démêlant ou un shampoing, travailler avec les cheveux mouillés, coiffer la personne parasitée avec ça.
Mais il y a surtout aussi ce duo de l'huile et du peigne qui permet justement de passer plus facilement, par exemple dans les chevelures plus longues.
Voilà, avec l'huile et le peigne, on peut y arriver. Mais j'avoue que nous traitons plus facilement avec les comprimés dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'ivermectine, le stromectol, qui donne d'excellents résultats quand c'est notamment une pédiculose familiale. Hein, c'est souvent des petites épidémies comme ça dans les familles ou dans les collectivités. On a tout essayé, les huiles, tout ça, et puis les gens viennent nous voir quand même. À ce moment-là, on leur donne des comprimés à prendre en 2 fois le premier jour et 10 jours plus tard, selon le poids. Un comprimé pour 15 kilos, ça marche très très bien.
Alors on va vous retrouver tout de suite, hein, docteur Isri. On donne tout de suite la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et le premier de ses auditeurs nous appelle de France, de la ville de Limoges, et c'est Diedrich. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Diedrich.
Ça fait peut-être plus de 4 à 6 mois que j'ai constaté des punaises de lit chez moi. Et du coup, j'en ai parlé à ma bailleuse. Je pensais au début que c'était un problème d'humidité. Du coup, on a éradiqué ce problème d'humidité, malheureusement ça persistait et j'ai pris des insecticides pour pulvériser dans la chambre et ça persistait toujours, ça diminue, ça persiste. Et la semaine dernière, ma petite amie était venue passer son séjour ici, ces insectes ont réapparu, l'ont piqué, du coup elle a des petites gaz sur tout le corps et ce matin... Elle est partie à l'hôpital se consulter. On lui fait savoir que les punaises ne peuvent pas être à l'origine de ces boutons. Et du coup, j'aimerais savoir tout d'abord comment éradiquer ce problème et comment il faut y remédier suite au picotement. Là.
Docteur Areski-Isri, hein, la plaie des punaises de lit, on en parle de plus en plus en France ces dernières années. Comment s'en débarrasser? Est-ce qu'il peut y avoir des lésions cutanées?
Oui, alors les punaises de lit, c'est quelque chose qui revient, hein, c'est incroyable. Le monde entier est envahi par les punaises de lit. La France étant la première destination mondiale du tourisme, on peut dire qu'au Corico, nous avons aussi la première destination mondiale des punaises de lit, malheureusement.
Parce qu'elles voyagent.
Elles voyagent très bien dans nos bagages. Et c'est certainement comme ça que l'on contamine les logements. Donc on va passer la nuit dans un hôtel infesté ou bien chez des amis qui ont des punaises et on ramène des punaises à la maison. Ou c'est le contraire, on a des punaises, on les emmène chez les gens. Donc le problème est quelque chose qui prolifère. C'est vrai que les punaises de lit, quand on les a à la maison, quand elles sont bien installées, le premier symptôme, c'est souvent les boutons qui apparaissent sur la peau, au niveau des bras, du visage, parfois les jambes. En fait, toutes les parties du corps qui ne sont pas protégées pendant la nuit par le pyjama ou autre. Et donc, le matin, on se réveille avec ces boutons. Attention, il y a quand même 30% des gens qui sont piqués, qui ne font pas du tout de réaction comme ça. Maintenant, quand elles sont installées, que faire? Voilà, le problème, c'est que faire. La première chose à ne pas faire, et là, j'insiste beaucoup auprès de vous, monsieur, c'est d'appliquer des insecticides. Parce que quand vous appliquez les insecticides, eh bien, vous dispersez les punaises à la maison. Elles sont résistantes. Dans le monde entier maintenant, les chercheurs écrivent la résistance des punaises de lit aux insecticides et à toutes sortes d'insecticides. Donc quand vous appliquez le produit, qu'est-ce qui se passe? Ça les irrite, elles changent de place. Normalement, elles ne sont que dans le lit. On les appelle les punaises de lit. Mais dès qu'il y en a beaucoup, elles se disséminent. Et dès que vous appliquez le produit insecticide, elles se disséminent également. Et là, ça devient très compliqué de vous en débarrasser.
Elles vont où, dans les placards?
Elles vont dans les placards, elles vont même dans la salle de bain, la cuisine, elles vont se cacher dans le couloir, elles peuvent passer chez les voisins. Mais toujours est-il qu'elles reviennent quand même la nuit pour piquer. Elles ne piquent que la nuit, elles se nourrissent de sang exclusivement, et pratiquement que de sang humain.
D'accord, docteur Areskizri, pas d'insecticide, mais alors on fait quoi?
Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui réagissent très très mal, ils jettent le matelas tout de suite à l'extérieur ou les meubles. Ça c'est une faute, parce que le matelas est ramassé par quelqu'un d'autre, les meubles aussi, et on dissémine encore le problème. Alors que faire? Nous recommandons, d'une manière très simple, de se battre un petit peu. Allez, on rentre dans une chambre, on fait chambre par chambre, on ramasse tout le textile, les draps, les tissus, les rideaux, les vêtements. On peut les passer au lavage à 60, puis au sèche-linge. Ou bien, simplement, au sèche-linge. Une heure, une demi-heure de sèche-linge, avec le programme prêt à ranger, et les tissus sont totalement décontaminés.
Quand on n'a pas un sèche-linge à la maison, on peut aller à la laverie, on va passer ça au sèche-linge à la laverie.
À la laverie, vous avez des machines de 20 kilos, vous pouvez tout régler en une matinée. Pendant que quelqu'un est à la laverie, quelqu'un d'autre peut passer l'aspirateur pour faire déjà un peu le ménage. Attention, il peut y avoir des punaises qui sont ramassées, donc il faut absolument jeter immédiatement le sac, en le mettant dans un sac poubelle fermé hermétiquement. Et puis ensuite, il y a des appareils qui donnent de l'air chaud, brûlant, qu'il faut régler à 80, allez, entre 70 et 90.
Comme les appareils à vapeur, c'est bien ça?
Comme les appareils à vapeur, mais je n'aime pas trop la vapeur parce que ça mouille et qu'on ne peut pas appliquer partout, notamment sur les prises d'électricité, les canalisations, les conduits d'électricité. Et puis sur un matelas, ça mouille, ça fait des taches. Et donc là, ce n'est pas bon.
C'est de l'air sec, chaud.
De l'air sec et brûlant. Et ça, c'est radical. Voilà, après, on peut faire de la rénovation. Mais je crois que je ne peux pas tout expliquer en quelques minutes comme ça.
Oui, c'est compliqué. Diedrich, en tout cas, vous avez compris l'essentiel. Arrêter les insecticides, c'est beaucoup plus des mesures d'organisation, d'hygiène et d'attaquer sur plusieurs fronts en même temps.
Oui, et en ce qui concerne les boutons, que faudra-t-il faire, quoi?
Alors, si les boutons sont liés aux piqûres de punaises, dès que vous éliminez les punaises, le problème est réglé. Les boutons, ils disparaissent tout seuls en 2-3 jours. Il y aura peut-être une petite cicatrice qui va traîner un peu plus. Mais dans votre cas, si ce n'est pas un problème de punaises de lit, il faut peut-être consulter pour voir si c'est pas autre chose. Par exemple, la gale.
Aller voir un dermatologue
ou médecin généraliste,
et puis sinon un dermatologue. En charge. Voilà, Diedrich, en plus vous êtes à Limoges, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes pour consulter dans ces conditions. On va prendre un autre auditeur, on vous souhaite une très très bonne journée, Diedrich. On va prendre un autre auditeur qui est au Cameroun, à Yaoundé. C'est Armand qui est en ligne avec nous. Bonjour Armand.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Isri vous écoute.
Bonjour.
Ok, bonjour docteur. Il se trouve qu'il y a de cela un an à peu près, mon corps a commencé à me démanger. Donc mon corps me démangeait énormément, c'est-à-dire que je me grattais au point où je me faisais des blessures. Donc le seul moment où je ne ressentais pas des démangeaisons, c'était juste quand je dormais. Mais quand je me réveillais, une fois que j'étais réveillé, quand les centres nerveux étaient activés immédiatement après, je recommençais à me gratter. Donc quand je suis allé à l'hôpital, le docteur, le dermatologue, il m'a dit que en fait j'avais les acariens à la surface de la peau. C'était la première fois que j'entendais parler. Donc, grosso modo, c'est ça. Et en me consultant, donc, au terme de la consultation, il m'a donné un médicament, il m'a prescrit un médicament. Je crois que le nom, c'était Acarial Bial. Je ne sais pas si c'est... vous appelez souvent ça comment, là. Le principe actif. Je ne sais pas quel est le nom du principe actif, mais le nom du médicament, en tout cas, c'était Acarial Bial. Donc, j'ai deux questions. La première est celle de savoir ce qui est à l'origine de la présence de ces acariens-là sur la peau. Et la seconde est celle de savoir ce qu'il faut faire pour les éviter.
J'ai une question, Armand, moi, à mon tour. Vous utilisez le terme d'acarien. Le médecin n'a pas employé le terme de gale?
Oui. En fait, il n'a pas vraiment employé le terme de gal. Et quand je fais des recherches sur Internet par rapport aux démangeaisons, que je me suis rendu compte que ce que j'avais s'appelait la gale propre. Parce qu'en me démangeant, je n'avais rien, je n'avais pas de bouton.
Mais vous faites, vous faites plus confiance à Internet qu'au médecin que vous êtes allé consulter.
Non, bon, le médecin, c'est vrai qu'il ne s'est pas étendu parce qu'il était très, très occupé ce jour-là. Il s'est juste contenté de me dire que j'avais des acariens à la surface de la peau et il m'a fait une prescription médicale.
Docteur Areskizri, je vous ai vu agiter la tête.
Oui, votre cas tel qu'il est présenté n'est pas clair du tout. On ne sait pas si vous avez la gale, si vous avez une allergie à quelque chose. Et je vois très souvent. En fait, il faut un diagnostic. Pour l'instant, il n'y a pas de diagnostic de ce que vous me dites, hein, de ce que je comprends. Mais les acariens, c'est quoi? Le sarcopte de la gale, c'est un acarien. L'agent de la gale, c'est un acarien. Après, est-ce que ce sont des acariens du matelas dont on vous parle? Ils vont pas vraiment sur la peau. Ils sont dans le matelas. Les acariens, vous avez 30 000 espèces hein, différentes. Donc, qu'est-ce que c'est? On n'a pas une idée précise du diagnostic. Je crois que le plus urgent chez vous est de faire un diagnostic. Et s'il vous plaît, n'allez pas trop sur Internet.
Retournez voir un médecin qui a un peu plus de temps, qui vous écoute, qui vous ausculte, pour savoir ce qu'il en est. En tout cas, je ne pense pas que vous puissiez, hein, comme le dit le docteur Isri, aller faire votre auto-diagnostic sur Internet. Ça, c'est vraiment pas recommandé pour tous les problèmes de santé, quels qu'ils soient.
Une fois que vous aurez le diagnostic précis, à ce moment-là, le traitement est facile. Mais sinon, on ne sait pas quoi faire.
Voilà, Armand. La seule chose à vous dire, c'est retourner, consulter, aller voir un dermatologue ou même un généraliste qui pourra établir un petit peu, avec plus de détails, ce dont vous souffrez, ce qui vous démange. On vous souhaite une bonne journée au Cameroun. Et on prend un dernier auditeur qui est en ligne du Bénin, d'Abomey. C'est Sédounou Raphaël. Sédounou Raphaël, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, docteur.
Bonjour.
Oui. Bon, je vous appelle depuis Abomey Calavi au Bénin.
Mm-hmm.
Du coup, c'était par rapport à ce parasite dont vous avez parlé, parmi les parasites corporels, que je veux parler des poux.
Mm-hmm.
Quand on était à l'école primaire, bon, chaque fois, quand on a les cheveux touchés, on véhiculait ce parasite-là à la maison et puis on en distribuait à toutes les sœurs, surtout les sœurs qui ont des cheveux, de longs chevelus. Et puis, quand la maman constatait qu'il y a un enfant qui, à tout moment, grattait la tête, on fait venir l'enfant et on fouille un peu sa tête si on sentait la présence de poux. Et c'est qu'on va raser la tête de tous les enfants-là qui ont des cheveux touffus dans la maison. Maintenant, pour nous les enfants, voilà, on nous rasait la tête. Mais pour les sœurs à qui leur chevelure était tellement utile, on faisait des applications de soufre écrasé et mélangé à de pétrole, soit à de crésil ou bien de camphre écrasé et mélangé à d'autres choses. Et après, quand on fait l'application, on couvre la tête avec de toile pendant quelques minutes et on prend de peigne après, quand on enlève le toile là et on peigne et les poux fatigués ou morts tombent avec des œufs et cette application là, ça se répète une fois, deux fois, trois fois et puis après on sent qu'il n'y a plus de présence de poux dans les cheveux des sœurs là.
C'est Dounou Raphaël, je fais réagir le docteur Areskizri, mais en tout cas, je ne suis pas médecin, mais le pétrole sur la tête, ça ne me dit rien de bon, moi.
Oui, oh là là, faites très attention à ce que vous mettez sur la tête.
Hein. Ah oui, quand même.
C'est des produits toxiques que vous êtes en train d'utiliser. Vous allez finir par tuer les gens, mais pas les poux. Et donc, ce n'est pas le but. Donc, il faut faire très attention à ça. Maintenant, les poux de tête, encore une fois, ce n'est pas quelque chose de grave. On ne va pas aller tuer les gens pour essayer de tuer le poux. Hein? Les garçons peuvent se raser le crâne, il n'y a aucun mal. J'ai le crâne pratiquement rasé. Personne ne dit que j'ai des poux. Hein. Il n'y a pas de souci. Et puis, c'est pas vilain hein, d'avoir le crâne rasé. C'est même à la mode. Pour les filles, c'est vrai que c'est moins acceptable. Alors, il faut des produits. Alors, les produits, il en existe en pharmacie. N'utilisez pas le pétrole, s'il vous plaît. N'utilisez pas des choses dangereuses. N'utilisez pas quelque chose qui n'est pas prescrit par le médecin ou votre pharmacien.
Ne pas détourner des objets comme ça, des produits du quotidien, pour faire n'importe quoi. C'est important.
Moi, j'ai vu, on a eu, en tout cas, dans les journaux, c'était paru, des gens qui ont brûlé leurs enfants parce qu'ils ont utilisé un produit comme le pétrole en même temps qu'elle fumait sa cigarette et ça a flambé.
C'est catastrophique.
Donc attention au danger. Il y a des médicaments, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des produits huileux qui sont commercialisés, qui marchent relativement bien, ils ne sont pas toxiques. Donc on peut répéter plusieurs fois, associer au peigne si c'est possible, et ça donne de bons résultats. Sinon, le médecin peut vous prescrire des comprimés de stromectol éventuellement, s'il y en a sur place. Et je sais qu'au Bénin, il y a quand même d'excellents services. Comme tout à l'heure, on a parlé de Limoges, il y a d'excellents services.
Voilà, c'est Dounou Raphaël. Hein. Oublions ces pratiques qui n'ont aucun sens de se mettre n'importe quoi sur la tête, en plus sur la tête d'enfant. C'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas recommandable. Docteur Ariskizri, tout à l'heure, on a parlé des puces de lit, des poux aussi. C'est important de traiter cet environnement, c'est important de traiter pour les poux l'entourage et pour les puces de lit, en tout cas l'environnement. C'est vrai aussi pour les poux, faire attention au canapé, aux couvertures, à la literie.
Alors pour les poux de tête, ils ne sont que sur la tête. Ils ne vont pas sur le canapé, ils ne vont pas sur la literie. Exceptionnellement, si on se coiffe au-dessus du lit avec un peigne fin, les poux peuvent tomber sur le lit ou sur le canapé. Mais c'est seulement parce qu'on les a retirés avec le peigne. Sinon, leur niche écologique, leur biotope, leur lieu de vie, c'est la tête, c'est le cuir chevelu. Parce que c'est là que les poux peuvent se déplacer, ils ont des pattes spécialement adaptées aux cheveux. Vous les mettez sur un textile, sur une table, sur... ils se déplacent même pas, ils savent pas marcher. Ils sont perdus. Et ils meurent rapidement. Au bout de 4 à 6 heures, ils meurent. Sur le cuir chevelu, ils ont la chaleur qu'ils ne retrouvent pas en dehors de là. Ils ont l'humidité qu'ils ne retrouvent pas en dehors du cuir chevelu. Et puis surtout, ils ont la table qui est servie. Ils peuvent piquer et se nourrir plusieurs fois par jour, jusqu'à 4 fois par jour, ce qu'ils ne font pas ailleurs. Donc ils vont mourir de faim aussi. Et etc. Il y a beaucoup de choses. La femelle, par exemple, est parfaitement adaptée aux cheveux pour pondre ses œufs, qu'elle colle d'ailleurs aux cheveux. Et tout ça, il n'y a que dans le cuir chevelu qu'elle peut le faire.
Est-ce qu'on peut confondre les poux, la pédiculose, hein, le nom scientifique des poux, avec d'autres problèmes capillaires, d'autres problèmes de cuir chevelu?
Alors beaucoup viennent nous voir parce qu'ils ont vu tomber des pellicules ou des petits points blancs et donc ils s'imaginent qu'ils ont des lentes, donc des poux. Très souvent on ne peut pas se tromper, un poux c'est un poux, hein. C'est un insecte, on voit bien à l'œil nu, il mesure 2,5 mm à peu près, donc ça se voit facilement à l'œil nu. Alors que les lentes, c'est tout petit, hein, ça fait moins d'un millimètre. Ça peut ressembler à une pellicule, mais elle est collée, la lente, alors que la pellicule tombe. Vous voyez, ça ne tombe pas tout seul.
Oui,
normalement, on ne peut pas confondre.
Oui, on peut vraiment distinguer les deux. Docteur Ariskizri, on va tout de suite partir pour Abidjan.
RFI.
Y retrouver le professeur Hervé Menant, bonjour.
Bonjour madame.
Professeur de parasitologie, mycologie, chef du département à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Professeur Menant, quels sont les parasites les plus fréquents que vous avez à traiter lors de vos consultations?
Alors, il faut dire que la pédiculose a beaucoup baissé. Hein. Nous étions à des taux de prévalence de 18% des années 1999. En 2010, on est passé à peu près à 1% et aujourd'hui, on est autour de 0,5%. Alors, cette diminution s'explique déjà par le fait que dans les écoles publiques, primaires publiques notamment, il est exigé que les petits garçons, les petites filles se coiffent. Et donc, ça fait baisser de façon très drastique le taux de prévalence, mais aussi le traitement de masse avec l'ivermectine. Vous savez, ici, on a la filariose lymphatique. Et pour pouvoir justement lutter contre cette filariose lymphatique, on a utilisé en masse l'ivermectine. Et l'ivermectine a permis justement de pouvoir lutter efficacement, non seulement contre la pédiculose, mais également contre la gale. Donc, il existe bien entendu également ici en Côte d'Ivoire la gale. En termes de prévalence hospitalière, on occupe 3%. C'est-à-dire que quand on prend l'ensemble des patients qui vont consulter donc à l'hôpital en dermatologie, il y a environ 3% de ces patients-là qui vont pour des causes de gale.
Est-ce que, professeur Menon, il existe à Abidjan, mais un petit peu dans la région, des parasites spécifiques qu'on peut retrouver beaucoup moins fréquemment dans d'autres régions du monde ?
Je pense qu'il n'y a pas de différence particulière. Hein. Nous avons pratiquement les mêmes ectoparasites. Donc, les poux des cheveux, les poux du pubis, les morpillons, la gale.
On parlait tout à l'heure du phénomène des punaises de lit. C'est quelque chose que vous connaissez aussi en milieu urbain, par exemple, à Abidjan, dans les grandes villes, ou pas vraiment ?
Oui, si. Vous savez, ce sont des phénomènes. Aujourd'hui, on va essayer de dire et insister pour dire qu'il ne s'agit pas de maladie liée à la pauvreté ni à un manque d'hygiène forcément, parce que effectivement vous avez des situations où les personnes ont des moyens, mais en plus quand vous avez des situations de pauvreté, de promiscuité et de manque d'hygiène, ça va entraîner la flambée. Donc c'est des maladies qui existent bien ici, c'est des infestations qui existent bien dans nos villes et villages également.
Des régions où on utilise communément les moustiquaires imprégnés pour lutter contre un autre fléau régional, il s'agit bien sûr du paludisme. Est-ce que ces moustiquaires peuvent se révéler efficaces contre certains parasites, professeur Menon ?
Alors les moustiquaires pourraient se révéler efficaces contre les poux. Malheureusement, les moustiquaires, on les dépose pas sur la tête. Donc vous comprenez que les poux étant dans les cheveux, parce que simplement les moustiquaires sont imprégnés d'insecticides, donc ce sont des dérivés pyréthrinoïdes. Mais ces moustiquaires-là, comme je l'ai dit, on les met pas sur les cheveux, évidemment, vous comprenez que les seuls qui pourraient être impactés, n'est-ce pas, ne le seront pas. Donc les moustiquaires n'auront vraiment pas d'impact sur les infestations de ces ectoparasites.
Tout à l'heure, on avait un auditeur du Cameroun en ligne qui nous a parlé de produits incongrus, sinon dangereux, utilisés pour lutter contre les poux. Est-ce que vous avez justement, à ce sujet, ce sera ma dernière question, professeur Menon, des messages à diffuser, des gestes ou des produits à éviter absolument ?
Alors, c'est un grave problème que nous avons. Les personnes infestées ici vont utiliser du pétrole, il y en a d'autres qui vont utiliser du naphtalène. Le naphtalène, donc, c'est un produit benzénique. Ce sont des produits cancérigènes, il y en a d'autres qui vont utiliser des huiles de moteur. Tout cela, en fait, ils estiment que ça va permettre d'étouffer le parasite et de se débarrasser, justement, de leurs arthropodes. Alors, le gros problème, il a dit tout à l'heure votre invité sur le plateau, il faut savoir que sur le marché, notamment en pharmacie, en officine de pharmacie, il existe des produits très efficaces, très très efficaces, accessibles en plus. Il faudrait éviter d'utiliser ces produits à risque, généralement cancérigènes, en plus des produits qui sont parfois inflammables, pour pouvoir traiter parfois des enfants très 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 jeunes. Donc il faudrait proscrire cela et encourager à l'utilisation des produits pharmaceutiques.
Produits pharmaceutiques, est-ce qu'on peut dire, professeur Menon, par exemple, qu'on peut utiliser des huiles alimentaires, si on parle des cheveux, pour justement éviter que ce soit dangereux si on traite un jeune enfant, utilise des huiles, ou ça ne sert strictement à rien ? Parce que certains le font, utilisent huile d'olive ou d'autres huiles. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Alors je sais que parmi les huiles alimentaires, on pourrait dire que l'huile de coco, l'huile de coco est l'huile alimentaire qui marche le plus. Effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir couvrir le pouls, les immobiliser, obstruer leurs orifices respiratoires, et ça va permettre de les tuer par asphyxie. Mais ça marche pas toujours en situation réelle. C'est vrai qu'au laboratoire, c'est des produits qui ont été testés et qui ont une certaine efficacité. Les autres huiles marchent beaucoup moins bien. Mais l'huile de coco est vraiment l'huile alimentaire qui semble bien marcher.
Merci beaucoup, professeur Menon, d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes professeur de parasitologie, mycologie, vice-président de la Société africaine de parasitologie.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On vous retrouve en studio, docteur Areski Isri. Alors, on a entendu ces huiles alimentaires. Je vous ai vu réagir. Vous en pensez quoi, vous, de détourner certains produits du quotidien ? On l'a dit, hein, pas dangereux, pas des produits, pas des solvants, surtout pas, mais certains produits du quotidien comme des huiles.
Écoutez, je crois que le professeur Menon a très bien répondu. Hein. Le seul produit utilisé, c'est l'huile de coco. Il est surtout utilisé comme excipient, même si à un moment donné, certains le considéraient comme principe actif. Son efficacité n'est pas suffisante, et donc quand on passe au traitement sur les gens, ça ne marche pas si bien que cela. Sinon, il y a des gens qui ont essayé, des chercheurs qui ont testé l'huile de tournesol, l'huile d'olive, et tout ça, ça ne marche pas, hein, donc c'est pas la peine.
C'est pas la peine de gâcher de la bonne huile d'olive. Alors, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une contamination aux animaux domestiques, attraper en fait, par exemple, les animaux que porteraient, les parasites que porteraient son chien, son chat?
Alors les poux que nous avons, enfin les ectoparasites humains sont strictement humains, ils ne vont pas sur les animaux, mais les animaux ont leurs propres poux, leurs propres acariens, etc., qui ne vont pas sur les humains, sauf les tiques. Les tiques, on dit une tique, hein, les tiques ça peut passer sur n'importe qui ça.
Alors, on observe une prolifération particulière dans certains contextes, notamment en collectivité, dans des structures collectives ou aussi d'accueil d'urgence. Une illustration concrète, on rejoint tout de suite le docteur Pierre-Marie Gallo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin bénévole pour Médecins Sans Frontières. Vous travaillez dans une clinique, des cliniques mobiles qui prennent en charge les migrants. Alors, comment expliquer, docteur Pierre-Marie Gallo, que certaines populations soient particulièrement vulnérables à ces contaminations de parasites?
D'abord, la promiscuité, puis le manque d'hygiène. Voilà.
Vous constatez-vous sur le terrain la prolifération de quels parasites en particulier ?
La gale.
Voilà. Avec des indications en termes de fréquence sur par rapport à un échantillonnage de personnes qui viennent en consultation que vous voyez ?
Oui, je peux vous dire que quelquefois, quand j'ai une consultation d'une journée sur 40 patients que je peux voir, en tout, je peux avoir une dizaine de cas de gale.
Et de quels symptômes se plaignent ces personnes contaminées, docteur Gallo ?
Démangeaisons. Alors, c'est le premier des signes. Démangeaisons qui est surtout nocturne, qui est interdigitale, qui est au niveau de l'abdomen, au niveau du pubis, au niveau des organes génitaux. Et souvent, une notion de contagiosité avec la personne n'est pas seule à se gratter. Elle a souvent des voisins qui font la même chose. Voilà.
Avec un contexte particulièrement complexe pour réussir à traiter ce genre d'affection.
Tout à fait.
Alors voilà. Comment vous faites ?
Alors nous avons pour nous à MSF, nous avons un protocole qui est un traitement minute de par comprimé qu'on peut renouveler au bout de 3 semaines, 1 mois si les signes persistent. Et puis, on essaie de leur demander de prendre leurs vêtements et sacs de couchage, à mettre dans un sac poubelle hermétique à l'abri de la lumière, vaporisé par produit antiparasitaire, et laisser pendant 48 heures. Mais c'est un petit peu difficile parce que vous pouvez imaginer que ces migrants portent sur le dos uniquement tout leur vestiaire. Donc, c'est un petit peu difficile, quelquefois, de leur demander ça.
Et dans le cadre de la prise en charge, est-ce que vous entendez aussi des remarques, s'il y a des traducteurs qui sont là pour faire le travail, justement, de mise en contact, de médiation, est-ce qu'ils parlent de stigmatisation? Est-ce qu'ils parlent de leur malaise, justement, d'être porteurs de ces parasites?
Pas trop. Ce sont, en général, les migrants que je vois, ce sont de jeunes gens qui sont très propres. Ils arrivent à prendre leur douche, ils font du sport, ils sont habillés, leurs vêtements sont souvent propres même. Je suis assez étonné. Et ils arrivent très vite. Quand ils commencent à se gratter, eh bien, ils arrivent.
Ils consultent rapidement. Merci beaucoup, hein, docteur Pierre-Marie Gallo, pour ces explications. Docteur Isry, des choses à faire, à ne pas faire, y compris quand on est face à des épidémies ou des contagions de gale comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter?
Oui, j'ai vu effectivement beaucoup de foyers qui accueillent des migrants, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gale. Nous, on recommande évidemment le traitement par le stromectol, c'est plus facile. On traite tous les sujets contaminés et puis les sujets contacts. C'est pas toujours évident de définir les limites, mais on y arrive. Le traitement par le stromectol, c'est en deux fois, impérativement en deux fois, le premier jour et 10 jours plus tard. Parce que quand on traite avec ça, on tue les acariens qui donnent la gale, mais on ne tue pas les œufs. Donc il faut impérativement refaire une deuxième cure. Quant aux vêtements, nous avons réussi, en tout cas dans beaucoup de foyers, à faire en sorte que les gens, dès qu'ils arrivent, se déshabillent et mettent leur linge à la machine ou au sèche-linge. En tout cas, beaucoup de foyers ont adopté ce système sur nos recommandations. Et puis, effectivement, décontaminent l'environnement, c'est-à-dire appliquent un insecticide sur les lits qui accueillent. Ce sont généralement des lits de camp, donc sur les lits qui accueillent ces migrants. Et de cette manière, les problèmes sont assez vite résolus.
Docteur Areskizri, sera le mot de la fin. Il peut aussi y avoir des initiatives combinées des instances de santé publique et des médecins pour justement essayer de se débarrasser de ces fameux parasites.
Oui, tout à fait. Donc, tout ce que je viens d'indiquer pour la prise en charge d'un foyer, ce sont aujourd'hui les recommandations notamment de l'ARS Île-de-France qui fait un énorme travail là-dessus. Et je vous remercie de me permettre de les citer.
Parce que ça peut marcher, hein. Beaucoup de gens disent impossible de s'en débarrasser. Il faut justement tordre le cou à ce genre d'affirmation. On peut s'en débarrasser.
On peut s'en débarrasser, mais il est vrai que le problème est assez complexe. Parce qu'un migrant qui arrive avec quelques bagages et puis dans la semaine il en reçoit d'autres. Et puis ça passe, il reste pas sur place. Il s'en va, il revient, il y en a d'autres qui arrivent. En fait, il y a un turnover énorme dans les foyers.
Merci infiniment pour toutes ces réponses, docteur Areskizri. Je rappelle que vous êtes chef de service parasitologie mycologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny en région parisienne. Comme chaque semaine dans Priorité Santé, on répond aux questions des auditeurs et des auditrices au sujet de la sexualité. Avec nous, docteur Catherine Solano. Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et en ligne avec nous, une auditrice, hein, c'est Mariam. Elle nous appelle du Burkina Faso, de Ouagadougou. Bonjour Mariam.
Bonjour, ça va, vous allez bien?
On va bien et on écoute votre question.
Ok, la première question est la suivante. Comment faire sa toilette intime après le rapport sexuel? Parce que j'ai entendu qu'après avoir fait le rapport sexuel, lorsque je veux faire un enfant, il faut rester pendant 2 heures de temps avant de se lever. Et une dernière question, la sécrétion vaginale souvent qui vient lors du rapport sexuel, est-ce que ça c'est normal ou bien c'est anormal?
La sécrétion vaginale abondante lors des relations sexuelles, docteur Solano.
Alors oui, c'est tout à fait normal d'avoir une sécrétion vaginale abondante et non seulement c'est normal, mais c'est bon signe, c'est signe de bonne santé sexuelle pour une femme si au moment des rapports sexuels elle a beaucoup de lubrification. Je vais vous faire une comparaison, c'est exactement la même chose que si un homme disait est-ce que c'est normal que j'ai une érection très dure au moment des rapports sexuels? Eh ben, je lui dirais oui, c'est normal. C'est signe de bonne santé sexuelle. C'est signe que le sang afflue bien dans la zone sexuelle et que ça fonctionne très bien. Donc, c'est la même chose, en fait.
Alors, cette question sur les sécrétions. Autre question de Mariam. Quand on veut un enfant, est-ce qu'il faut ne plus bouger pendant 2 heures après une relation sexuelle?
Alors, non, pas du tout. Ça change vraiment rien. Ça, c'est une croyance qui est très répandue et qui est due au fait que le sperme a tendance à ressortir après une relation sexuelle. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Et résultat...
On a même des clichés des femmes qui levaient les jambes le long du mur, soi-disant, pour augmenter la fertilité.
Moi, je sais que j'ai une amie à qui on avait dit ça. Et elle, elle restait allongée très longtemps. Et puis, elle faisait des fécondations in vitro. Donc, elle savait le moment. Et un jour, elle en a eu marre. Elle me dit, j'ai pris... À l'époque, elle avait une 2 chevaux. Pourtant, elle dit, j'ai fait, je sais pas, 50 kilomètres. Et c'est ce jour-là que je suis tombée enceinte. Donc, vous voyez, non, c'est réellement, ça change pas grand-chose.
Et sinon, Mariam demande ce qu'elle doit faire au niveau de l'hygiène après une relation sexuelle.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant après une relation sexuelle pour une femme, c'est d'aller uriner. Pas forcément dans la seconde. Hein. Je dis, on n'a pas besoin de rester allongé 2 heures, mais on n'a pas non plus besoin de se lever comme un ressort, voyez, tout de suite après. Vous prenez votre temps. C'est d'aller uriner tout simplement parce que ça permet d'éviter le risque d'infection urinaire. Pour les femmes qui en ont facilement. Le deuxième conseil pratique, c'est que si vous faites une toilette après un rapport sexuel, ce qui est pas obligatoire d'ailleurs, il faut faire une toilette uniquement externe et surtout ne jamais laver l'intérieur du vagin parce que ça déclenche un risque d'infection vaginale parce qu'on fait remonter des microbes dans le vagin qui n'a besoin de rien pour se défendre très bien tout seul.
Parce qu'il a sa propre flore.
Il a sa propre flore, il a son acidité qu'il défend. Et si on fait rentrer de l'eau, on va détruire tout ça et il se défend mal. Et en plus, on fait remonter des microbes. Donc surtout, ne jamais laver l'intérieur du vagin.
Voilà, Mariam, pour ces conseils du docteur Catherine Solano. J'espère qu'on a répondu à vos questions.
Je suis vraiment contente, oui, je suis vraiment contente, merci beaucoup. Et j'aimerais participer aux autres émissions, Inch'Allah.
Eh bien, appelez-nous et on prendra vos appels, parce que souvent on manque de femmes justement à l'antenne. C'est toujours un plaisir d'avoir une femme qui est très intéressée par sa santé et par le bien-être de son corps. Très bonne journée à vous, Mariam. À Ouagadougou, on a une question Facebook qui est signée 1020. Il nous explique donc qu'il est enseignant, il pose cette question pour ses élèves. Est-ce que l'excès de masturbation a des conséquences néfastes sur la sexualité?
Alors, l'excès de masturbation, effectivement, ça existe, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on croit. Donc, en pratique, on parle d'excès quand il y a une addiction à la masturbation, c'est-à-dire quand la personne qui pratique cette masturbation est elle-même gênée dans sa vie de tous les jours. Si elle pratique pendant des heures, si ça l'empêche d'avoir une vie sociale et des amis, si, parce qu'elle préfère rester chez elle, passer des heures à la masturbation, ou par exemple, si au travail, elle va 20 fois par jour pratiquer la masturbation aux toilettes, ou, moi j'ai déjà vu des patients, si la peau de leur pénis est abîmée à force de frottement. Donc, on parle d'excès quand vraiment la personne souffre de cet excès. Et donc, pourquoi j'explique ça en détail, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui disent « moi, je suis dans l'excès au niveau de la masturbation », en fait, parce qu'ils la pratiquent une ou deux fois par jour, peut-être même trois fois, et ben ça, ça présente pas spécialement de danger particulier, ni pour la santé, ni pour la sexualité.
Mais en tout cas, la masturbation peut avoir quand même un impact sur la sexualité.
Alors, il y a deux conséquences qui peuvent être complètement opposées. Soit une éjaculation précoce, ou soit au contraire, une difficulté à avoir l'éjaculation.
Alors, comment on peut expliquer justement ces deux extrêmes?
Alors, c'est hyper simple à comprendre. C'est une question d'entraînement et d'habitude. Si un jeune homme prend l'habitude de pratiquer la masturbation à toute vitesse, bon, par exemple, pour ne pas être surpris, eh ben, son corps va s'habituer à fonctionner rapidement. Et donc, pendant les rapports sexuels, son cerveau va se dire, tiens, hop, je déclenche tout de suite une éjaculation parce que je suis habitué à le faire. Si c'est dans le sens inverse, c'est surtout si un autre jeune homme va pratiquer la masturbation avec des stimulations très différentes de celles des rapports sexuels. Son corps va s'habituer. Je vous explique ce que je veux dire. En pratique, si un jeune homme prend l'habitude d'appuyer très fort sur son pénis, d'exercer une pression très forte ou de tirer dessus pour déclencher une éjaculation, son cerveau va s'habituer à déclencher l'orgasme avec ces stimulations. Et quand il va avoir une relation sexuelle avec une jeune fille, ben, le vagin va jamais appuyer aussi fort qu'une main. Il va pas tirer sur le pénis non plus, donc le cerveau va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas mes petites sensations habituelles que j'ai pour déclencher l'éjaculation, donc il la déclenche pas. Donc, c'est vraiment, on peut dire que la masturbation, ça va un peu modeler le fonctionnement du cerveau pour déclencher l'éjaculation. Et donc, ça veut dire qu'on peut mal s'éduquer, mais aussi qu'on peut se rééduquer en pratiquant d'une manière différente.
Voilà pour ces réponses à la question Facebook qu'avait posée cette enseignante 1020. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Et on vous retrouve très bientôt dans Priorité Santé. Vous, auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions Facebook ou bien sûr le numéro de l'émission 33 84 22 75 75. Priorité Santé qui touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est Toussa Maquet, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Demain, alors que commence le Salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris, nous allons nous intéresser aux aliments bio. Comment évaluer leurs bienfaits supposés sur la santé? Vos témoignages, vos questions, notre numéro 33 84 22 75 75. Et bien sûr, on se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme les heureux retraités, assurez dès maintenant vos vieux jours avec l'assurance retraite. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.